La parole du jour avec Claude Frisch, diacre.
Chers auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous allons réfléchir autour du Christ premier-né d'une multitude de frères que nous retrouvons en Romains 8 et en Hébreux 2. D'abord, les textes. Romains 8, 28, 29. Nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur bien. Puisqu'ils sont appelés selon le dessein de son amour. Ceux que d'avance il connaissait, il les a aussi destinés d'avance à être configurés à l'image de son Fils, pour que ce Fils soit le premier-né d'une multitude de frères. En Hébreu 2, 10, 14, celui pour qui et par qui tout existe voulait conduire une multitude de fils jusqu'à la gloire. C'est pourquoi il convenait qu'il mène à sa perfection par des souffrances celui qui est à l'origine de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous d'un seul. Pour cette raison, Jésus n'a pas honte de les appeler ses frères. Quand il dit « Je proclamerai ton nom devant mes frères, je te chanterai en pleine assemblée » et encore « Moi, je mettrai ma confiance en lui » et encore « Me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. » Puisque les enfants ont en commun le sang et la chair, Jésus a partagé lui aussi pareille condition. Ainsi, par sa mort, il a pu réduire à l'impuissance celui qui possédait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Alors, quel est le fil rouge de ces deux textes ? D'abord, Paul présente dans ce passage de l'Épître aux Romains l'objectif ultime du dessein de Dieu sur les créations et sur l'histoire humaine. Réaliser une fratrie aux dimensions universelles dont le Christ, son Fils, sera l'aîné parce qu'il en sera la source, le principe et le modèle. De toute éternité, Dieu avait un Fils. Maintenant, le Fils aura des frères qui partageront son héritage de gloire. La fraternité fera son entrée en Dieu. Nous allons donc nous demander en qui Jésus a reconnu ses frères. Ses frères et sœurs de naissance, sa famille spirituelle, les disciples, les pauvres et tous les démunis, qu'il a désigné comme les plus petits d'entre ses frères et auxquels il a voulu s'identifier en allant jusqu'à faire de notre relation à eux le critère décisif de notre relation à lui. Ce passage est très important parce que on retrouve ici la préférence particulière du Christ pour ses plus petits, les plus pauvres, les démunis, les exclus, ainsi que l'Église l'a conforté dans la doctrine sociale de l'Église, avec cette préférence pour les plus pauvres. On voit ici que c'est le sens même de cette fraternité dans le dessein de salut de Dieu. En effet, nous sommes appelés à devenir les frères du Christ et que pour cela, le Christ s'est fait notre frère. Mais rappelons le contexte de pensée dans lequel Paul est amené à cette affirmation. Dieu, de toute éternité, a voulu faire de son Fils le premier-né d'une multitude de frères. Le Fils est en tout semblable à ses frères. Hébreux nous montre que le Fils s'est configuré aux humains comme leurs frères. D'un côté, pour l'Épître aux Romains, les humains sont appelés à devenir pleinement les frères du Fils en sa gloire, et de l'autre côté, pour l'auteur de la lettre aux Hébreux, celui qu'il confesse comme le Fils en Dieu resplendisse de sa gloire, expression parfaite de son être. Ce Fils qui porte l'univers par sa parole puissante a été amené à partager totalement la condition de ses frères en humanité dans leur faiblesse. Les pères de l'Église reprendront avec insistance ce double aspect de la fraternité du Christ. Jean Chrysostome qui dit « L'apôtre dit que le Christ n'a pas honte de nous appeler frères et de dire « J'annoncerai ton nom à mes frères ». En effet, en revêtant la chair, le Christ a revêtu la fraternité, et en même temps, la fraternité aussi s'est introduite dans la chair. Cyrille d'Alexandrie disait « Le Verbe a participé au sang et à la chair. Il est devenu un frère pour ceux qui sont dans la chair et le sang. S'il est devenu comme nous, c'est pour cette raison, pour nous déclarer frères et libres. » Fraternité et solidarité. Fraternité dans la prière, dans le désir, dans la volonté, mais aussi devenir libre par l'action, l'engagement, le service. Charles de Foucault expliquait comment il a choisi de s'appeler frère Charles. Il dit « J'ai choisi ce nom qui indique que je suis leur frère, et le frère de tous les humains, sans exception ni distinction, parce que Jésus est ce frère aîné universel. Et donc je veux habituer tous les habitants, chrétiens, musulmans, juifs et idolâtres, à me regarder comme leur frère, le frère universel. » Et enfin, Christian de Chergé, prieur du monastère de Tibrine, déclarait en 1996 « Autour de nous, nous désignons les montagnards, ceux que l'on appelle les terroristes, les frères de la montagne. Et les forces armées, nous les appelons les frères de la plaine. C'est une manière de rester en fraternité. » Cette fraternité de tous les croyants en Christ n'est pas un surplus de l'œuvre de Dieu, une sorte de résultat supplémentaire. Elle fait partie de l'objectif. Elle est un trait essentiel du dessein de Dieu. Comment approcher ce chemin du salut, cette fraternisation humaine par le Fils et du Fils ? En Romains 8, il est dit « Si les hommes peuvent devenir par la foi les frères du Fils, c'est que le Fils a bien voulu se faire le frère des hommes. » Devenir par la foi, c'est en rentrant à l'intérieur de nous, en méditant la fraternité du Christ avec nous et par la prière, que nous pouvons élargir notre cœur à la fraternité avec tous. Enfin, le Christ ne rougit pas de les appeler frères. Frères dans la rue, frères de ceux qui sont handicapés, aveugles, paralysés, les publicains, les prostituées, voilà ce peuple auquel Jésus se réfère pour vivre au cœur la fraternité. Demain, nous aborderons la question de l'Église. Église fraternité, Église universelle fraternité, en Matthieu 18, tous frères.